et de faire confiance à la justice et de se dire qu'elle a, elle a condamné de façon juste et équitable.
Mais ce n'est pas la question, n'est-ce pas? Il est évident que dès qu'un jugement pénal de condamnation est passé en est devenu définitif et exécutoire, il doit être considéré comme l'expression de la vérité. Ça, je n'ai pas l'intention de le contester. Mais à cela s'oppose un autre point de vue qui est celui du condamné à dire je ne suis pas persister à nier avoir commis les faits, à se prétendre victime d'une erreur judiciaire. Ça peut arriver, n'est-ce pas? Et alors, avec une pratique de ce genre, vous exercez sur lui une pression indirecte pour qu'il passe à des aveux. C'est ça qui me paraît inadmissible.
Alors, je partage ce point de vue. Je partage ce point de vue, mais je précise que dans l'attribution au niveau de la direction des établissements, nous ne sommes pas détenteurs de la décision ni en matière de sortie, de congé, ni en matière de transfert en régime de semi-liberté. Donc nous ne sommes appelés à nous prononcer que dans le cadre d'un préavis. Et ce préavis, dans certains cas, n'est pas compris par l'autorité de décision qui peut avoir un autre point de vue. Donc, en tant que personne qui sommes là avec deux obligations qui seraient pour l'une de garder les gens pour protéger la société et pour l'autre de les préparer au retour à la vie libre, c'est bien évident que c'est une question qui se pose et puis qu'on aurait plutôt tendance à résoudre en répondant par l'affirmative quand on nous demande une sortie, par exemple.
C'est pas ce que je viens de dire, malheureusement. C'est pour ça que je suis permis d'intervenir. Je fais allusion à un cas précis où mon client, dans un premier temps, il semble que maintenant la situation est évoluée.
Mais dans un premier temps, mon client s'est vu refuser un congé parce qu'il y avait un préavis négatif de la direction qui invoquait précisément le déni, n'est-ce pas? Qui disait il persiste dans le déni, donc on ne peut pas lui accorder un congé. Et ce préavis a été suivi, je ne sais pas s'il faut dire aveuglément, par le service pénitentiaire.
Alors, bon, il peut y avoir d'autres motifs.
Le motif qui était indiqué, c'est pas, il n'y en avait pas d'autres.
Le déni.
On reconnaissait au contraire que l'intéressé se conduisait parfaitement, son comportement était excellent.
Oui, je peux comprendre votre réaction. D'un autre côté, il est évident qu'arrivé à un certain stade, il est souhaitable que la direction de l'établissement et le service ou l'autorité de condamnation puissent se mettre d'accord sur le même objectif. Tout à fait. Voilà. Peut-être qu'il y a aussi derrière votre réflexion. Je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de la réflexion qui concerne la protection de la société. Donc, je crois que cet élément-là est également dans la balance.
Oui, mais...
C'est possible, mais je...
Moi, j'aimerais quand même faire remarquer que si peut-être de temps en temps, tout à fait exceptionnellement, un déni à sa raison d'être jusqu'au bout, d'une manière générale et dans la, la très grande majorité des cas, c'est quand même important que ce déni cesse un jour. Hein. La réaction première d'énormément de condamnés, c'est de dire non, j'ai rien fait, etc. Alors, il faut quand même pas, pour des raisons limite purement abstraite et idéologique, essayer de dire que le déni est toujours une bonne chose, vous voyez. Peut-être qu'il y a des cas exceptionnels, mais d'une manière générale, moi je pense que l'administration pénitentiaire a raison de tenir compte du déni.
Pour faire beaucoup d'expertise en milieu pénitentiaire, de libération conditionnelle, j'abonde totalement dans votre sens où un sujet, on a beau prôner les réinsertions sociales, et je la prône moi-même ardemment, mais le sujet qui manifeste un déni, tant qu'il manifestera le déni, on peut faire des prières, mais il restera en dedans, malheureusement, jusqu'à temps qu'il admette les délits qui ont été commis et qui s'ouvrent un peu sur le délit. Ça m'apparaît tout à fait d'une logique cartésienne.
Voilà. Le problème, il va se poser au moment où on devra libérer la personne. Ça, c'est évident aussi. Mais je crois aussi que le fait que le congé représente une étape vers la liberté, il n'est pas nécessairement... compatible avec quelqu'un qui reste dans la position qui est la sienne, de refuser son jugement. Et on n'est pas en prise directe avec l'idée qu'on peut préparer le terrain de sa sortie.
Oui, juste pour compléter, parce que je me sens directement mis en cause aussi par rapport aux décisions que nous prenons, je crois que la libération conditionnelle, en fait, pour qu'une libération conditionnelle soit octroyée, par exemple, il y a deux conditions. La première, c'est une condition de bon comportement qui est de moins en moins prise en compte par le tribunal fédéral et à juste titre. La deuxième, c'est un pronostic favorable. Et je crois que là, le déni total ne permet pas, dans la majorité des circonstances, de faire un pronostic favorable, tout simplement parce que une des conditions d'un changement, c'est que la personne se mette en contact avec le délit qu'elle commet, et puis qu'elle soit capable de travailler sur ce délit et sur ses comportements.
Je remercie M. Valoton pour cette réponse. Et je crois que le temps n'est pas comme en prison chez nous ici et qu'il faut qu'on essaye de respecter l'horaire. Je remercie beaucoup M. Pochon pour cette intervention. À M. Jacques Gasser, psychiatre, qui va aborder le brûlant sujet de l'unité d'expertise, et nous parler de l'unité d'expertise du DUPA. Et c'est une nouvelle unité, je crois, et il va pouvoir nous en dire deux mots. Merci.
Voilà, le thème de mon intervention n'est pas vraiment sur l'unité d'expertise, c'est plutôt sur la responsabilité restreinte. Enfin, je suis prêt à répondre... aux questions qui me seront posées par la suite, merci, à propos de l'unité d'expertise elle-même. Je voulais d'abord... ça vient plus tard. Et puis à l'endroit. Je voulais d'abord sincèrement remercier Madeleine Pont, le GRAP de façon générale, Bruno Gravier et ses collaborateurs qui ont organisé ces journées. Je pense que c'est des journées très importantes dans le partenariat entre justice, psychiatrie, les personnes directement concernées. Et je pense que c'est vraiment une des conditions à ce que ce débat puisse avancer. En tout cas, merci déjà beaucoup pour organiser ces journées. Alors, j'aimerais d'abord faire un lien avec le débat de hier après-midi, où on a déjà passablement parlé de façon polémique de la question de la responsabilité, qui est concernée, le juge, le psychiatre, qui en remet en cause. Et au fond, cette question, la question d'évaluation de la responsabilité pénale dans le cadre des troubles mentaux reste conflictuelle, peut-être doit rester conflictuelle. Et loin de vouloir aujourd'hui résoudre ce conflit, j'aimerais simplement apporter quelques éléments pour élargir la discussion. Tout d'abord, grâce au point de vue historique, qui nous aide souvent à relativiser les choses. Et en effet, notre pratique d'aujourd'hui n'est qu'un moment de la déjà très longue histoire de cette problématique. Et je crois indispensable de rappeler quelles sont nos racines, ce que disaient nos pères. Et je vois cette tâche comme un acte d'humilité et de justice envers nos prédécesseurs, car comme le disait Auguste Comte, l'humanité est composée de plus de morts que de vivants. Avant de chercher à tout prix de nouvelles solutions, la connaissance des acquisitions passées nous évitera peut-être de réinventer des solutions déjà expérimentées. Ellen Berger, un célèbre psychiatre, criminologue canadien d'origine suisse, historien de la psychiatrie, nous rappelle qu'un regard sincère vers le passé peut donc contribuer à nous guérir de cette illusion par laquelle chaque génération s'imagine que la science commence avec elle et nous aider à éviter certaines fausses routes. Pour la question qui nous intéresse aujourd'hui, celle de la responsabilité pénale des personnes dont le juge estime qu'elle peut être diminuée ou abolie pour des causes psychiques, elle remonte au fond très loin. Pour nous autres, modernes, il paraît de toute évidence que l'homme, entre guillemets, normal, est responsable de ses propres actions, qu'il n'a droit à une reconnaissance ou à un châtiment que s'il a eu la pleine initiative et la conduite de ses résolutions. C'est sa pensée qui a dû concevoir et c'est sa volonté qui a dû exécuter. Tout trouble subi par l'une, toute entrave où s'embarrasse l'autre, diminue le mérite ou le démérite d'une action. En d'autres termes, l'homme responsable est celui qui est le maître de ses intentions et le maître de ses mouvements. C'est là le point de vue du sens commun, mais également celui du législateur. Ce dernier, d'ailleurs, n'a pas estimé nécessaire de définir la notion de responsabilité dans notre code pénal, car nous sommes tous supposés, étant majeurs, être responsables de nos actions. Nous verrons que c'est son absence qui doit être prouvée. Pourtant, ce qui nous apparaît si évident n'a de loin pas toujours été le cas dans l'histoire de l'humanité. Ainsi, pour forcer le trait, je prendrai un premier exemple dans l'attitude des anciens Grecs. Les héros d'Homère ne sont pas les maîtres de leurs intentions. Ils les reçoivent toutes faites, ils les subissent de la part de quelques dieux à l'origine de leurs desseins. Les poèmes homériques sont d'un bout à l'autre des histoires de suggestion où les guerriers jouent le rôle de sujets dociles et les dieux celui d'opérateurs qui s'amusent. La volonté de ces héros est donc entièrement asservie à des forces externes, une sorte d'hypnotisme surnaturel. Mais sur le plan de la responsabilité, les héros cités sont néanmoins considérés comme responsables de ce qu'ils produisent. Ainsi, si les dieux ont fait Achille invincible, c'est quand même lui qui recevra les récompenses et la gloire. Différence essentielle avec notre attitude. La responsabilité ne porte pas sur les motifs, elle porte sur les actes. La tête qui conçoit est épargnée, le bras qui exécute est atteint. Cette doctrine, bien loin de la nôtre, est à la fois mystique et matérialiste. Elle n'est pas morale. Autre exemple, celui de Platon, 4 siècles avant notre ère, dans son texte sur les lois. Lorsqu'il s'interroge sur les diverses causes qui peuvent excuser les actes criminels, il indique que l'auteur d'actes délictueux, s'il est jugé fou ou malade ou trop vieux, ce sont ces 3 catégories, il doit payer net le dommage qu'il a causé, mais il doit être exempté de toute autre peine. On notera que nous ne savons pas si ces principes étaient appliqués par les tribunaux grecs, en manque de témoignages, et qui déterminait la folie. Nous savons seulement que ce n'est pas qu'une affaire médicale. Et là, je recite Platon, où il nous dit, si l'une des causes est clairement prouvée, donc la folie, la maladie ou la vieillesse, au juge choisi dans tel ou tel cas de procès, par information venue de l'auteur, du fait ou de son défenseur. Donc, pas question à cette époque-là d'expertise. Et dans la conception platonicienne qui nous est décrite dans le Timée, il est intéressant de voir comment, au fond, Platon pouvait concevoir le rapport entre maladie et diminution de la responsabilité. Il ne parle bien sûr pas de diminution de la responsabilité. Je le cite. Les maladies de l'âme naissent de l'état du corps, ainsi qu'il suit. Il faut convenir que le mal de l'âme, c'est le manque d'intelligence et qu'il y a deux espèces de manque d'intelligence, à savoir la folie et l'ignorance. Par conséquent, toute affection qui contient l'un ou l'autre de ces mots doit être appelée maladie. Ainsi, il faut dire que les peines et les plaisirs excessifs sont les plus grandes maladies de l'âme. Celui dans la moelle duquel s'engendre un sperme abondant et impétueux est comme un furieux pendant la plus grande partie de sa vie à cause de ses peines et de ses plaisirs excessifs. Et ayant une âme malade et insensée par la faute du corps, il est considéré mal à propos comme un homme volontairement mauvais. On a déjà là une prémisse, au fond, de la responsabilité diminuée. Je continue la citation. En réalité, le dérèglement de ses plaisirs est une maladie de l'âme, produite en grande partie par un certain genre de fluide qui, à cause de la porosité des os, se répand abondamment dans le corps et l'humecte. De même, à peu près tout ce que l'on nomme intempérance dans les plaisirs et qu'on reproche comme des maux volontaires n'est pas un objet de juste reproche. En effet, personne n'est mauvais volontairement, mais c'est par quelques vices dans la constitution du corps, par une mauvaise éducation, que l'homme mauvais est devenu ce qu'il est. Ainsi, dans cette physiologie à nos yeux fantaisiste, mais à l'interne très logique, on peut voir trois idées qui se dégagent. La première, c'est que personne n'est mauvais volontairement. Que, deuxièmement, la pathologie mentale écarte toute volonté libre. Et troisièmement, que les maladies de l'âme naissent de l'état du corps. On est donc dans un cas de fatalité des actions délictueuses qui est très proche de ce qui apparaîtra dans les siècles suivants comme le déterminisme. Autre exemple, celui du droit romain, et en particulier dans le Corpus Juris Civilis, qui réunit des fragments et des écrits datant de plusieurs siècles et qui serviront de base au droit canon et à diverses juridictions jusqu'au XVIIIe siècle. On y fait de nombreuses allusions aux problèmes juridiques posés par ce qu'on appelait les furiosi, c'est-à-dire les fous. Et je cite un exemple. Le furieux comme l'enfant, s'ils ont tué un homme, ne sont pas tenus par les lois Cornelia, car l'un est défendu par l'innocence de ses intentions et l'autre est excusé par le malheur de son sort. Ainsi, le fou n'est pas maître de son esprit. Il est incapable de comprendre la portée de l'acte qu'il commet, de même que pour l'enfant, pour le quadrupède, ou même pour la tuile qui tombe d'un toit, on ne relèvera pas contre lui aucune faute. Il ne sera pas poursuivi par la loi. Il faut au contraire le faire bénéficier d'une pitié qui se fonde sur son infortune. Il importe pourtant de prévoir, dès cette époque, des mesures pour assurer à la fois sa garde et la sécurité de son entourage. Étonnante actualité de ses conceptions. Par la suite, le juge du Moyen-Âge, en se fondant sur ces notions, s'interroge sur l'état de la raison de l'accusé au moment du crime, en atteste de nombreuses lois qui fixent la condition et les droits du fou. Si bien que vers le XIVe siècle, déjà, la situation juridique de ce dernier est organisée dans la plupart des pays d'Europe. le temps me manque pour poursuivre ce périple, et j'en viens directement par un saut de plusieurs siècles, au moment de la construction de la psychiatrie, vers le début du XIXe siècle, où la médecine dans son ensemble subit une mutation décisive. La nouveauté, c'est l'apparition d'une spécialité originale, pour ce qui nous intéresse, jusque-là non distinguée dans le champ de la théorie et de la pratique médicale, celle des aliénistes. Ces médecins spécialisés revendiquent l'exclusivité de la connaissance scientifique et du traitement de la folie, qu'ils redéfiniront vers 1850 en maladie mentale. Ils se dotent à cet effet des moyens de distinction institutionnelle tels que revues scientifiques, chaires d'enseignement, groupements professionnels, etc. La nouveauté, c'est enfin et surtout la réorganisation complète au plan social de la prise en charge des aliénés, en particulier par le développement de lieux spécifiques de soins, les asiles d'aliénés, qui deviendront nos hôpitaux psychiatriques. C'est bien un bouleversement culturel majeur qui se laisse deviner à travers cette concentration chronologique. Comme l'ont bien souligné des auteurs comme Gladys Swain et Marcel Gauchet, ce moment historique où, dans le sillage de la Révolution française, se construit une nouvelle anthropologie démocratique, dont la révolution des droits de l'homme est certainement l'élément central, s'articule précisément à une autre entreprise plus locale, mais dont les desseins ne sont pas moins révolutionnaires pour l'idée même que l'on peut se faire de l'homme. En effet, on entrevoit pour la première fois chez l'aliéné, même apparemment le plus coupé de la communauté des hommes, ce dont rend précisément compte le terme d'aliéné, cet être étrange, étranger à la condition humaine. Une lueur toujours possible de cette faculté de raison, jamais véritablement éteinte. La tâche spécialisée de l'aliéniste, les anciens psychiatres, sera alors de retrouver patiemment la voie de ce reste raisonnable en l'aliéné, de favoriser cette nouvelle accessibilité au dialogue, condition essentielle des nouveaux traitements par la parole. Ainsi, la profession d'aliéniste se met en place grâce à des auteurs comme Pinel ou Esquirol dans le domaine francophone, et ceci aura des conséquences bien entendu essentielles pour notre propos. Pour la première fois, des spécialistes ébaucheront des catégories morbides directement inspirées des situations pénales. Deux exemples. André Mattet, médecin genevois, forgera en 1816 le terme de pathomanie. Et comme définition, perversion de la volonté et des penchants naturels sans lésion apparente des fonctions intellectuelles. Et il divisera cette catégorie en différentes espèces, par exemple la clopémanie, hein, qui est le penchant à dérober sans nécessité, ou la fureur sans délire, qui est une impulsion intérieure qui porte à commettre des actes de férocité. Fort de ces essais, nos ancêtres, les aliénistes, voudront, et je cite Esquirol en 1838, appeler l'attention des juges et du législateur sur l'appréciation de quelques actes qui seraient des crimes horribles s'ils n'étaient pas accomplis par des malheureux dont la raison est pervertie, qui sont dans un état anormal qui les prive de leur libre arbitre. Désormais, devant chaque délit, on pourra soupçonner une perturbation plus ou moins grave des instincts. La psychiatrisation de la criminalité se met en place et grâce à l'institution asilaire, la psychiatrie pourra également proposer une prise en charge où se confondent déjà thérapie et prévention. Car pour nos ancêtres, il n'était pas question d'innocenter le crime et de laisser en liberté l'aliéné dangereux. Ainsi, les deux fonctions de la psychiatrie, thérapeute et garde-fou de la société, sont en place et détermineront les rapports jusqu'à aujourd'hui des liens entre psychiatrie et justice. En France, la législation se mettra rapidement au goût du jour à travers le célèbre article 64 de 1838 qui dit « Il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action. » Ainsi, on définit à ce moment-là uniquement l'irresponsabilité la responsabilité restreinte n'existait pas. Le prévenu était ou bien considéré comme responsable et devait en subir toutes les conséquences, ou bien était considéré en état de démence et un non-lieu était prononcé. Et cette loi, malgré de nombreuses controverses, restera d'ailleurs intacte durant plus de 150 ans. Ce n'est qu'en 1994, le docteur Lamotte en a déjà parlé, qu'une nouvelle loi se met en place. Et peut-être on va juste là... Oh, c'est de l'autre côté. Merci. Donc c'est ce fameux article 122.1 du nouveau code pénal où au fond on détermine, elle a clairement deux parties. La première n'est pas pénalement responsable, hein, c'est-à-dire que la personne ne subira aucune peine. La personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Or, une évolution évidemment aussi intéressante où on passe de l'état de démence, qui était un terme extrêmement général, à ce qu'on appelle un trouble psychique ou neuropsychique. Et la deuxième partie de la phrase, très importante, la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique, ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. On est là dans, en tout cas, une ébauche de la question de la responsabilité restreinte. Je reviendrai sur les différents termes en analysant un peu plus précisément la situation suisse. Alors, en Suisse, les choses se sont passées un peu différemment. C'est dès 1888 que Karl Stoss, professeur de droit pénal, a été chargé par les autorités fédérales de la préparation d'un avant-projet de code fédéral, de code pénal fédéral. Stoss, dans son avant-projet, s'est largement inspiré de l'œuvre de Forel, qui est un psychiatre vaudois ayant longtemps exercé dans le canton de Zurich. Pour Forel, largement influencé lui-même par l'école positiviste et positive italienne, prône le déterminisme de l'action humaine. Si l'acte criminel n'est pas l'effet d'une volonté libre, en punir l'auteur n'est pas justifié. Il est donc inutile pour Forel de punir quelqu'un dont on connaît la cause de sa délinquance. Il faudra le soigner d'une part et protéger la société d'autre part pour l'empêcher de nuire. De plus, pour Forel, il n'existe pas de limite claire entre la responsabilité et l'irresponsabilité, mais, je le cite, « une gradation d'anomalies ou de lésions, partielles ou totales, légères ou graves, aiguës ou chroniques, héréditaires ou acquises, organiques ou fonctionnelles, de l'organe de notre âme, entre parenthèses, le cerveau, gradation aux nuances et variétés infinies, et pas un homme, si fort soit-il, ne peut se permettre sans être injuste ou arbitraire, de trancher les limites précises et absolues et de nous ériger en dogme. Seule l'observation de personnes compétentes et expérimentées dans les anomalies mentales est capable de juger sur la matière dans chaque cas particulier à l'aide de la méthode inductive de la science et en se basant sur les longues expériences de cette dernière. Stoss définit à la suite de Forel la responsabilité diminuée de cette façon. Je le cite, « Le passage de la santé à l'aliénation mentale et de la conscience complète à l'inconscience se fait par degrés successifs et à peine sensible. On a là la base de nos futurs articles 10 et 11 qui seront adoptés en Suisse que en 1942. Donc les bases théoriques de ces deux articles existaient dès la fin du 19e siècle, et ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'ils se sont faits dans un dialogue entre justice et psychiatrie. Donc, ce que nous faisons n'est pas vraiment nouveau. Ce dialogue existait dès la fin du 19e siècle. Maintenant, peut-être je vais examiner avec vous les conditions de la discussion autour de l'expertise et de l'analyse de la responsabilité. Je reprends ce transparent. Hier, il y avait un certain doute pour savoir, au fond, dans quelles conditions le juge pouvait ordonner une expertise. Alors, là, dans l'article 13, au fond, qui fonde les possibilités de l'expertise, on nous dit que l'autorité d'instruction ou de jugement, hein, le juge d'instruction, le président de tribunal, ordonnera l'examen de l'expertisé s'il a doute quant à sa responsabilité ou si une information sur son état physique ou mental est nécessaire pour décider une mesure de sûreté. Les experts se prononceront sur la responsabilité de l'inculpé ainsi que sur l'opportunité et les modalités d'une mesure de sûreté selon les articles 42 à 44. Donc là, très clairement, pour répondre au fond aux questions qui étaient posées hier, le psychiatre n'a pas le choix. C'est le juge, au fond, qui prononce ces mesures et il doit se prononcer sur la responsabilité de l'inculpé. On notera que c'est uniquement dans cet article qu'est nommée la question de la responsabilité. On peut passer au transparent suivant. Maintenant, l'article 10, qui est au fond, avec l'article suivant, la base des questions qui nous sont posées dans l'expertise psychiatrique. Je crois que ça vaut la peine de s'y arrêter quelques instants. Cet article 10 nous dit donc, n'est pas punissable. Hein, et je crois que ce terme est très important, où on voit que quand on parle de responsabilité pénale, on n'est pas dans le cas de la responsabilité de façon générale ou dans la responsabilité morale ou dans la responsabilité du sens commun de ce terme qu'on peut utiliser tous les jours. Hein, c'est une définition du terme qui est très réduite et au fond, on pourrait donner comme synonyme à ce terme de responsabilité le terme de punissabilité. Hein, au fond, dans le cadre légal, il s'agit bien de punissabilité. Donc, n'est pas punissable celui qui a atteint, donc il y a trois possibilités, d'une maladie mentale, d'une faiblesse d'esprit ou d'une grave altération de la conscience, ne possédait pas, au moment d'agir, d'une part, la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte, ou deuxièmement, de se déterminer d'après cette appréciation. Les mesures prévues aux articles 43 et 44 sont réservées. Là aussi, donc, trois conditions qui rendent possible l'application de cet article 10, c'est trois conditions très ambiguës, difficiles à... Donc, je crois que dans le projet du nouveau code pénal, on parle de troubles psychiques ou de troubles mentaux. On ne définit plus, au fond, ces différentes espèces. Ensuite, je crois que ce qui est important pour bien comprendre ce qui nous est demandé, et comment est-ce que le psychiatre peut apporter une contribution à cette réponse sur la question de la responsabilité, il faut bien diviser la question de la responsabilité en deux fonctions ou en deux facultés, et qui sont l'article 10, ce sera la même chose dans l'article 11, je prends l'article 10 comme exemple. Donc, la responsabilité est définie comme la personne qui ne possédait pas au moment d'agir, premièrement, la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte. Donc là, il s'agit d'une faculté cognitive. Hein. Est-ce que je me suis rendu compte de ce que je faisais? Est-ce que j'ai les moyens, au fond, de savoir que ce que je faisais était illicite? Et c'est les constituants, au fond, c'est les moyens intellectuels hein, de développer une capacité de représentation mentale, de compréhension, de raisonnement. Et la deuxième partie, c'est la détermination d'après cette appréciation. Et là, on est dans une faculté volitive. Hein, est-ce qu'on a la volonté, malgré le fait qu'on savait que quelque chose est interdit, de résister au fait de ne pas le faire? Et qui constitue, au fond, les moyens psychiques de contrôler ses motivations, ses émotions, ses impulsions. On voyait donc qu'il y a vraiment deux étapes très différentes dans l'examen qu'on pourra faire pour essayer de se prononcer sur la détermination de la responsabilité. Donc, juste encore une remarque sur les conditions de la responsabilité. Il faut bien se rendre compte qu'il y a deux conditions pour qu'on puisse parler de responsabilité pénale. La première, bien sûr, il faut qu'il y ait l'accomplissement d'un fait matériel. Hein, il faut qu'il y ait un acte, c'est-à-dire une culpabilité. Et la deuxième chose, c'est une intention de mal faire. L'auteur du délit doit avoir une volonté libre et une intelligence lucide, ou une autre façon de le dire, que je crois le droit italien le signale, c'est la capacité de vouloir et de comprendre. Et on peut encore signaler à ce sujet une maxime du droit canadien qui dit au fond que l'acte ne fait pas l'accusé si l'esprit n'est pas accusé. En ce sens, la responsabilité pénale est donc l'aptitude à subir une condamnation répressive et à répondre de ses actes en connaissance. On peut peut-être passer à l'autre, à l'article 11. Donc, dans notre droit, c'est l'article 11 qui détermine la responsabilité restreinte. Cet article est important et était longtemps un article original du droit pénal suisse. Et là, on nous dit le juge pourra atténuer librement la peine. Et je crois que c'est évidemment le point central. Et de nouveau, là, quand on nous posait des questions de pouvoir dans la polémique de hier, le droit, en tout cas, est très clair. La réalité est certainement plus discutable, mais là, c'est le juge qui pourra atténuer librement la peine si, par suite d'un trouble dans la santé mentale, dans la conscience, ou par suite d'un développement mental incomplet, on reprend sous une formulation atténuée les troubles de l'article 10. Le délinquant, au moment d'agir, ne possédait pas pleinement, et là, on reprend les deux facultés, cognitives d'un côté et volitives de l'autre. Donc, on remarquera que le législateur et, d'une certaine façon, le sens commun, comme je le disais au départ, ont un point de vue philosophique implicite, en considérant l'homme normal comme responsable, allant dans le sens du libre arbitre. Et ce point de vue, comme son nom l'indique, est une prise de position sur l'homme. D'autres positions seraient possibles, en particulier celle du déterminisme. On peut citer celui de Forel, et là constater un paradoxe intéressant, où Forel, déterministe, au fond, est à la base d'un code pénal fondé sur le libre arbitre. Mais on a aussi des déterminismes comme celui de Freud, qui est le déterminisme pulsionnel, ou des déterminismes génétiques. Donc il y a une contradiction là entre le fondement du droit pénal et ses différentes conceptions. Alors, pour terminer, juste une remarque. Au fond, on peut penser que la constatation d'une baisse ou d'une abolition de la responsabilité est favorable aux prévenus. On l'a vu hier dans le dialogue entre Maître Burnan et Bruno Gravier, comme dans certains cas, au fond, ce n'est pas du tout le cas. Alors, sur le plan de la psychologie, le prévenu peut se sentir atteint dans sa dignité et voir son acte dévalorisé. Par exemple, on peut prendre l'exemple d'un acte politique qui est assimilé dans une expertise à une conduite infantile. Et où, si l'irresponsabilité est totale, il faut se rendre compte que la procédure se limite à l'instruction, il n'y a pas de procès, et c'est comme si l'acte n'avait pas existé socialement. Et là, on peut prendre l'exemple d'Althusser, un célèbre philosophe français. On peut en parler parce qu'il a écrit un livre extrêmement intéressant sur son cas qui s'appelle « L'avenir dure longtemps ». Althusser, en deux mots, a tué sa femme par strangulation en 1980. Il était atteint d'une psychose maniaco-dépressive et c'est lors d'une décompensation de sa psychose qu'il a fait cet acte. Il était immédiatement... Pardon.
Il Oui. On voit que c'est un cas qui fait encore une certaine polémique. Toujours est-il que dans ce qui m'intéresse, on a constaté un état de démence chez lui et donc une irresponsabilité totale. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'Althusser, dans son livre, au fond, se plaint énormément de cette irresponsabilité. Et je le cite, il nous dit « Je n'entends rien d'autre par là que lever la pierre tombale sous laquelle la procédure du non-lieu m'a enfoui à vie pour donner à chacun les informations dont je dispose. » Il dit aussi que, au fond, cette irresponsabilité qu'il a reçue était comme une pierre tombale du silence, comme une espèce de mort psychique. Alors voilà un peu ces éléments pour continuer la discussion d'hier. Et j'aurais voulu terminer par une citation que je n'arrive plus à retrouver. Excusez-moi. Et d'un article de Franck Chaumont, qui, lorsqu'il analysait la position du psychotique vis-à-vis de son délire, le déclare responsable dans sa logique interne. Et il conclut par une phrase qui, j'espère, pourra ouvrir le débat, où il dit « Heureusement qu'il y a des fous irresponsables pour que nous puissions penser que tout à chacun, nous sommes responsables. »
Monsieur Gasser sera là ce soir pour la table, la discussion autour de la table ronde. Et je propose que l'on prenne la pause maintenant et l'on se retrouve à 11h15.
Ça, c'est mon dada, mon spécifique, depuis un peu plus de 10 ans. Ensuite, on a 4 unités de traitement. Toutes les unités ont à peu près une vingtaine de lits. L'unité de traitement se définit par la perspective d'un congé à l'intérieur d'une période de 2 ans, et 3 unités de réhabilitation où le séjour est plus long pour des patients plus chroniques, beaucoup plus difficiles, où le séjour est prévu pour plus de 2 ans. On a ensuite une unité de transition pour ceux qui sont prêts à sortir et qui reçoivent beaucoup de congés vers l'extérieur, une unité d'adolescent qui fait principalement de l'expertise, et une unité de délinquance sexuelle avec sentence fédérale, dont vous avez peut-être entendu parler ici, et qui est très reconnue internationalement. C'est un programme qui a été très, très bien monté depuis au moins une quinzaine d'années. Donc, nous recevons des mandats de commission d'examen. Traduction, mon cher Bruno. Qu'est-ce qu'un mandat de commission? Voilà, merci. Des détenus carcéraux, ordonnance de garde en établissement, c'est des PO, ça? Placement d'office? C'est ça?
Oui.
Merci. Des prévenus. Et on a aussi instauré un système, parce qu'à Pinel, les unités de traitement et de réhabilitation disent toujours que c'est eux qui reçoivent toujours les pires cas. Donc, un comité de transfert qui est effectué pour distribuer également les cas. Bon, c'est quand même sécuritaire de tout le Québec, donc il y a des cas extrêmement difficiles, donc pour répartir ces cas-là également. En externe, ça c'est un volet qui a beaucoup augmenté, je pense que Bruno en est témoin. Moi-même, quand j'ai appelé en externe, savoir les chiffres, j'étais surpris. Donc 600 patients, dont en psychiatrie adulte environ 320, un gros programme de délinquance sexuelle adulte, plus 115 patients, et ce qui est en train de baby-boomer, excusez l'expression, c'est la délinquance sexuelle juvénile. C'est vraiment impressionnant. Il y a des jeunes de 11-12 ans qui se retrouvent là, donc 150 patients qui y sont suivis. Alors, hier soir, tard après le souper, j'ai pu aller faire une petite promenade dans les Alpes. À moins que ce soit le lac Tao dans les Rocheuses, ce ce qui me permet de faire une petite pause. Et je vais maintenant aller à mon hypothèse de travail avec 5 diapositives, mais à une seule condition. Il faut que j'entende un oui très bruyant de votre part à une question très simple. Avez-vous, comme Suisse, Roman, ou toute autre personne dans la salle, un bon sens de l'humour? Ah, ben c'est bon ça! Est-ce que j'ai bien entendu? OK. Que dit-on? Oui, tu savais? Voici donc l'histoire d'un exécutant de peine, triste, en détresse, derrière les barreaux, qui, visiblement, a besoin d'aide psychiatrique. Décidément, il veut vraiment s'en sortir. Pour avoir de l'aide et un traitement approprié. Alors, on va sortir des barreaux, l'admettre à Pinel. Pour lui offrir un traitement approprié, l'installer à sa table de travail thérapeutique. Et quand il progressera adéquatement dans son travail thérapeutique et en fonction de ses capacités, plutôt que de le retourner derrière les barreaux dans un environnement fort pathologique, nous lui offrirons une libération conditionnelle. Dans un lieu beaucoup plus approprié qu'un pénitencier, comme vous pouvez voir. Mais évidemment, le tout assorti d'un suivi externe approprié et une bonne qualité de vie. Ça ne marche pas tout le temps, ça faut viser juste. Donc, la deuxième section. Alors, les détenus fédéraux qui ont nécessité l'hospitalisation en psychiatrie, au Québec, on est la seule, il y a comme 5 districts, régions pénitentiaires au sens large au Canada, et au Québec, c'est le seul endroit où les détenus fédéraux sont hospitalisés hors pénitencier, à Pinel, dans un hôpital. Ce qui est une différence majeure, et ça a été discuté abondamment hier et aujourd'hui, la différence de traiter des gens dans un hôpital versus un milieu carcéral. Donc, au Canada, tout détenu qui reçoit une sentence de 2 ans ou plus est considéré comme détenu fédéral, alors que les sentences inférieures à 2 ans sont gérées par le provincial, donc par des provinces. Au Québec, tous les détenus qui nécessitent une hospitalisation en psychiatrie sont dirigés à l'Institut Pinel sur la unité d'admission où je travaille. Étant le seul lieu d'hospitalisation pour les détenus présentant une problématique psychiatrique aiguë, on a la chance et l'honneur d'avoir l'exclusivité d'un bassin d'environ 3500 détenus fédéraux dans la région du Québec. Et évidemment, il s'agit d'une population particulière, puisqu'elle est d'une part sentencée et que d'autre part, elle présente une problématique psychiatrique significative ou à tout le moins des troubles de comportement tels qu'une hospitalisation en psychiatrie est nécessaire. Alors, ces aspects combinés à la prise en charge de cette clientèle difficile nous avaient motivés à tenter de mieux cerner les éléments qui vont suivre. Donc, l'étude s'était faite sur 2 ans avec 120 patients. Alors ici, on a les antécédents correctionnels fédéraux et provinciaux. Donc, aucun antécédent, un peu moins de 30%. Et comme vous voyez, le corollaire indique que 70% des détenus qui venaient en hospitalisation chez nous avaient des antécédents correctionnels. Au provincial, donc, sentence de 2 ans moins un jour. En bleu, c'est ceux qui ont eu plus d'une admission donc la majorité ont déjà été plus d'une fois. Et au fédéral, c'est à peu près moitié-moitié, donc tout ce qui est en bleu, c'est plus d'une admission, donc des antécédents chargés. Pour les antécédents psychiatriques, il n'y en avait pas dans environ 18 % des cas, donc à l'inverse, environ 82 % des sujets en avaient. Et la partie jaune, c'est ceux qui étaient déjà venus à Pinel, soit en expertise ou autre, mais ce qui est plus important, c'est la partie rouge-violacée, qui indique que ces détenus-là étaient déjà allés dans les hôpitaux psychiatriques généraux. Donc, ce sont des gens qui côtoient les hôpitaux réguliers. Donc, on est tous susceptibles d'en avoir, même si, entre guillemets, ils peuvent être ou paraître être de gros méchants. La répartition des sentences, c'est à peu près égal, 2 à 3 ans, 3 à 10 ans, plus de 10 ans, avec un pourcentage d'environ 12 % de sentences-vie dans la dernière colonne. Et ça, évidemment, ça a un impact assez important sur notre travail ou notre tentative de réinsertion sociale, parce que vous imaginez facilement que les sentences-vie et les très longues sentences, c'est plus difficile d'effectuer un des travaux qu'on voudrait bien faire. L'objet des délits, c'est quand même assez frappant, même quand on a découvert ça. Contre les biens, les drogues, il n'y a à peu près rien. Donc, de cette clientèle, évidemment, bon, psychiatrique qui est chez nous. Les délits contre la personne représentent quand même presque 86 % de ces patients. Et si on analyse plus à fond, parce que délit contre la personne, ça peut vouloir dire, bon, voie de fait, tentative de meurtre, agression sexuelle, vol qualifié, vol avec violence, sans nécessairement qu'il y ait une victime psychologique, oui, toujours, mais pas nécessairement une victime avec des blessures physiques. Donc, en fouillant plus à fond les dossiers, on a trouvé qu'il y avait quand même aucune blessure physique directe dans 50 % des cas, mais évidemment, l'inverse, c'est que 50 % des cas avaient des blessures significatives à 32 % et presque 20 % de décès. Donc, c'est une clientèle qui est violente. Sur la question des diagnostics, je vais passer assez rapidement. Donc, en majorité, ce sont des gens psychotiques, donc avec perte de contact avec la réalité. En vert, c'est des gens qui ont un trouble de la personnalité, donc sans diagnostic psychiatrique de l'ordre de la psychose, de schizophrénie, d'être manico-dépressif. Donc, personnalité avec caractéristiques antisociales, état limite, et donc quand même 23 % de notre clientèle. Et la répartition des diagnostics de psychose est assez égale entre les schizophrénies, troubles schizoaffectifs. Autres, c'est des troubles délirants, des psychoses atypiques et les troubles affectifs bipolaires, donc les maniaco-dépressifs. Évidemment, nous ne recevons pas habituellement des maniaco-dépressifs en gentille euphorie, mais plutôt avec le côté du caractère qui est plus prononcé, avec beaucoup d'irritabilité, de violence, d'agressivité. Les maniaques ou les hypomanes gentils, très drôles, très ludiques, malheureusement, on n'en voit pas beaucoup chez nous. Ça, c'est un peu le cœur de notre travail, où on retrouve, dans la première section à gauche, l'axe 1, ceux qui sont un petit peu moins familiers, donc maladies psychiatriques, schizophrénie, psychose, maniaco-dépressif, dépression majeure, sans être accompagné d'un trouble de personnalité significatif, donc d'un trouble caractériel, ou je ne sais pas quelle est la meilleure appellation ici en Suisse romande pour ce genre de problème de personnalité. Donc, environ 25 %, et ça, ça peut correspondre un peu à la population des hôpitaux généraux. Donc, des gens qui ne présentent pas nécessairement de très grands problèmes de prise en charge. Troubles de personnalité seulement, évidemment, ceux-là étaient, quand ils sont admis, c'est pas parce que c'est des troubles de personnalité qui sont sages en milieu carcéral. Ce sont des troubles de personnalité qui font déborder le système, qui font éclater le système. Et il y a des points d'interrogation sur savoir est-ce qu'il y a maladie psychiatrique surajoutée ou pas. Donc, ce ne sont pas des petits anges. Et il y avait à peu près 23 % de nos admissions qui étaient de cette nature. La troisième colonne, ça, c'est un peu le point central qui nous avait d'ailleurs passablement surpris. C'est la combinaison de maladies psychiatriques, donc psychose principalement, si on veut, avec troubles de personnalité significatifs, donc troubles caractériels dignes de mention. Alors ça, ça fait tout un beau mélange. Parce que le cocktail des deux fait en sorte que souvent, ils arrivent très malades, désorganisés, délirants, hallucinés. Et là, on a un personnage. Et une fois que le traitement est entamé, alors qu'on a l'impression que tout va mieux, là, le trouble de personnalité émerge, se présente. Donc, on a un nouveau patient et qui requiert une prise en charge complètement différente, qui doit être beaucoup plus structurante, structurée, claire, précise, avec du limit setting, et pour adresser la problématique du trouble de personnalité. Donc, il faut un travail d'équipe extrêmement serré pour expliquer à l'équipe le mouvement du patient et essayer de suivre l'évolution du patient dans sa pathologie, dans ses multiples pathologies, et ça change beaucoup. Et après ça, il y a aussi, évidemment, souvent les deux axes en même temps. Donc, troubles de personnalité sévères qui amènent avec lui un désordre psychotique et qui colore le désordre psychotique, souvent avec beaucoup d'agressivité, violence, vécu carcéral, valeur carcérale, hostilité, mépris, intolérance, difficulté au niveau de l'alliance. Et ça, quand on a ça en cocktail, c'est pas évident. C'est des gens qui parlent très peu aussi, qui livrent peu leur pathologie. Donc, la combinaison de ce qu'on appelle axe 1, axe 2, est quand même fort intéressant. Et pour une unité de traitement, si on regarde la combinaison axe 1, axe 2 et donc ceux qui ont un trouble de personnalité axe 2, ça fait quand même environ 74 % de notre unité de 19 lits qui, qu'il y ait psychose ou non, pour utiliser un terme plus large, ont un trouble de personnalité significatif. Donc, on a un groupe d'individus qui, à 75 % sur l'unité, a un trouble de personnalité significatif. Donc, la gestion doit être très, très précise pour éviter violence, acting out, bagarre et tout. Et le personnel est extrêmement vigilant parce que nous sommes totalement, totalement anti-violence. Et curieusement, malgré cette clientèle, le dernier assaut sur un membre du personnel, ça remonte à 7 ans. Et il y a eu, des fois, il faut prendre les gens physiquement, les mettre en isolement, des trucs comme ça, de façon temporaire. Mais la première chose qu'on leur dit, c'est pas de violence, sinon on est drastique par rapport aux incidents de violence. Alors, voici ce qui se passe avec nos patients. Donc, les destinations au départ. Et ça, c'est à partir de l'unité d'admission. Donc, il y en a beaucoup qui venaient en début de sentence pour évaluation, ou d'autres qui ont des très longues sentences, ou pour autres raisons, des troubles de personnalité déjà évalués. Donc, un peu plus de 35 % retournent au pénitencier, à partir de Pinel. Environ 25 % à partir de l'unité d'admission, sont dirigés sur une unité de traitement, où le séjour sera plus long, pour une évaluation plus approfondie ou pour des gens très malades qui ont beaucoup de difficultés à s'adapter en milieu carcéral et chez qui on veut faire beaucoup d'enseignements pour qu'ils apprennent à mieux gérer leur maladie, surtout quand la sentence est longue. Tout ce qui est en vert, c'est les gens qu'on dirige dans les ressources. Et donc, tout le phénomène de la réinsertion sociale, et ça représente quand même, bon, à partir de l'unité d'admission, la colonne en vert, c'est plus de 25%, plus l'autre tranche à partir des unités de traitement. La catégorie autre, c'est des gens qu'on a gardés à l'hôpital, souvent jusqu'à la fin de leur sentence. Par exemple, quelqu'un à qui il reste 4, 5, 6 mois de sentence, et on va le garder jusqu'à la fin pour essayer de le réinsérer le mieux possible, tout en sachant qu'on n'a plus de levier légal en termes de libération conditionnelle. Ah, il y a un petit doublet là-dessus. Intéressant. Vous avez droit à une double diapositive. Donc, je voulais vous illustrer, mais ça reviendra tantôt de toute façon. En arrière-plan, vous avez une ressource d'hébergement où je vais travailler une fois par mois. C'est l'hiver quand même. Et c'est à l'extérieur de la ville, peut-être à 130 km de Montréal. Donc, c'est peut-être pour illustrer un des lieux d'hébergement, comme une maison de transition. En avant-plan, c'est à peu près lisible, le portrait donc de notre clientèle, l'âge moyen de 33 ans, un statut civil célibataire à 78%, nombre d'enfants aucun à 81%. J'ai absolument rien contre les célibataires et contre les gens qui n'ont pas d'enfants, mais quand on compare à la population générale, ce sont des chiffres qui parlent énormément en termes de vie sociale. Comme je vous disais tantôt, des antécédents correctionnels très chargés et le 82,5% d'antécédents psychiatriques. Bon, on retourne à une diapositive simple. C'est un peu le résumé de ce qu'on racontait tantôt. Donc, les délits contre la personne à 85% des cas, les blessés à 50% ou décès, et les axes dont j'ai parlé tantôt, donc troubles de personnalité ou maladies psychiatriques. Et évidemment, nous, on a été étonnés nous-mêmes que presque 50% de nos patients quittent pour une destination autre que le pénitencier. Finalement, je n'ai pas suivi mon texte, mais je vais essayer de me retrouver pour la suite. Alors, n'oublions pas que les délits sont principalement orientés contre les personnes, résultant en blessures ou même la mort, ce qui démontre évidemment un potentiel très élevé de violence. Nos sujets se présentent habituellement avec un désordre psychotique bien carabiné. Une collègue pédagogue qui était dans mon sous-sol quand j'avais commencé la présentation me dit « Mais tu ne trouves pas que c'est un peu méprisant? » Oui, je suis d'accord avec ton commentaire, sauf que malheureusement, à partir des pénitenciers, j'en reçois des patients comme ça. En bon québécois, on dit « se sont plugués les doigts dans le 220 ». Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En français, on dirait ça comment? On s'est plugués les doigts dans le 220. Les patients qui arrivent, là, après un an, en 23 sur 24, là, ils n'ont pas le morceau de bois, là, mais ils ressemblent malheureusement à ça, et c'est très pathétique. Évidemment, ça, c'est le côté psychotique, et ça, c'est le côté carcéral. Donc, notre 74% de tantôt. Maintenant, je sais que les pays européens, la Suisse, les Français, ont l'imagination fertile. Oui, c'est à peu près 2,50 m. Oui, 6 pieds, c'est 2 mètres. Oui, c'est assez costaud quand même. Donc, ayant l'imagination fertile, il faut vous imaginer que quand je parlais de la clientèle axe 1, axe 2, donc psychose, bon, je dis toujours psychose, mais ça peut être bon, problématique psychiatrique franche, avec trouble de personnalité, il faut que votre imagination, ça aurait été bon de la faire en double, celle-là, comme celle de tantôt. Donc, de mêler le patient précédent avec celui-là, et c'est ça qu'ont l'air nos patients, très, très musclés, très désorganisés, très psychotiques, quand il y a la combinaison des deux facteurs. Mais, dans notre travail, nous ne nous contentons pas d'éteindre les feux. Nous espérons aller beaucoup plus loin et